Chapitre 6. Le portique.
Randaltor,
lança Moiraine à la cantonade,
est une tête de mule, un crétin obstiné et un imbécile de... un idiot d'homme.
Elaine leva agressivement le menton. Sa nourrice, Lini, aimait dire qu'il était plus simple de broder avec des crins de sanglier que d'essayer de faire changer un homme d'avis. Mais ce n'était pas une excuse pour Rand.
Nous les faisons de ce bois-là, à Deux-Rivières,
dit Ninévée, avec un demi-sourire et une jubilation à peine contenue. En règle générale, elle cachait assez mal son animosité envers Moiraine, plus mal qu'elle l'imaginait en tout cas.
Mais les femmes de chez nous n'ont jamais de problème avec leurs hommes,
ajouta-t-elle. Au regard que lui jeta Egwen, le mensonge était si gros que la langue de la sage-dame aurait dû tomber de sa bouche comme un fruit mûr. Moiraine plissa le front comme si elle s'apprêtait à répliquer vertement. Elaine fit mine d'intervenir, mais elle ne trouva rien à dire qui fût susceptible de calmer le jeu. Rand occupait toutes ses pensées. Il n'avait pas le droit par la lumière. Mais quel droit avait-elle pour sa part?
Qu'a-t-il encore fait?
Demanda Egwen à l'Aes Sedai. Moiraine tourna la tête, le regard si dur que la jeune femme recula d'instinct et déploya son éventail pour se ventiler frénétiquement le visage. Mais les yeux de l'Aes Sedai dérivèrent sur Joya et Amiko. Alors que la seconde se perdait dans la contemplation du mur, la première défia du regard son ancienne collègue. Elaine sursauta en constatant que la sœur noire n'était pas attachée. Inquiète, elle s'assura de la solidité du bouclier qui l'isolait de la source authentique. Tout allait bien de ce côté-là. Et avec un peu de chance, personne n'aurait remarqué sa réaction angoissée. Joya la terrorisait, elle n'y pouvait rien. Et Gwen et Ninévée, en revanche, ne semblaient pas plus impressionnées que Moiraine. Parfois, il se révélait difficile d'être à la hauteur du courage dont la fille héritière d'Andor devait faire montre en toutes circonstances. Très souvent, Elaine enviait la bravoure de ses deux compagnes, qui ne montraient pas de faiblesse.
« Les gardes !»
murmura Moiraine, comme si elle se parlait tout haut.
« Je les ai vus dans l'antichambre, et il ne m'est pas venu à l'esprit que... »
Elle tira sur les plis de sa robe et parvint à se ressaisir, mais non sans effort. Elaine n'avait pas souvenir de l'avoir vue si furieuse, mais elle avait d'excellentes raisons pour ça.
Pas plus que moi, enfin je crois.
Quoi qu'il en soit, éviter de croiser le regard d'Egwen n'était pas un jeu d'enfant. Si Egwen, Ninévée ou Elaine avaient ainsi montré leurs troubles, Joya se serait sans doute fendue de quelques subtiles remarques destinées à les déstabiliser un peu plus. Surtout en l'absence de Moiraine. L'Aes Sedai étant en cause, elle se contenta de la regarder en silence, l'air désorienté. Son calme revenu, Moiraine longea d'un pas décidé l'interminable table. Joya faisait une bonne tête de plus que son ancienne collègue. Pourtant, même si elle avait elle aussi porté une robe de soie, nul n'aurait eu de doute sur l'identité de la dominante et de la dominée. La sœur noire parvint à ne pas reculer, mais ses mains serrèrent très fort le devant de sa robe, une façon de les empêcher de trembler.
« J'ai pris des dispositions, »
annonça Moiraine.
« Dans 4 jours, tu embarqueras sur un bateau, direction Tarvalon et la Tour Blanche. Là-bas... l'indulgence que tu as connue jadis est de l'histoire ancienne. Si tu n'as pas encore établi la vérité, arrange-toi pour le faire avant d'entrer dans le port sud. Si tu ne veux pas finir sur le gibet de la cour des traîtres. À partir de maintenant, je ne t'adresserai plus la parole. Sauf si tu me fais savoir que tu as quelque chose de nouveau à dire. Et je ne veux rien entendre sortir de ta bouche, si ce n'est pas une nouveauté, c'est compris? Crois-moi, ça t'épargnera bien des malheurs à Tarvalon. Avienda. Veux-tu bien dire au capitaine de nous envoyer 2 de ses hommes ?
Elaine cligna des yeux de surprise lorsque la guerrière se releva souplement et sortit avec la grâce et la furtivité du nombre. Parfois, Laiel était si discrète qu'on ne remarquait même plus sa présence. Joya fit mine de dire quelque chose, mais Moiraine la foudroya du regard. Assez vite, la sœur noire détourna la tête. Même si ses yeux brillaient comme ceux d'un corbeau ivre de sang, elle réussit à tenir sa langue. Elaine vit qu'une aura blanc et or entourait désormais Moiraine, indiquant qu'elle s'était connectée au Saïdar. Pour percevoir le phénomène, il fallait être également capable de canaliser le pouvoir. Idem pour remarquer que les flux qui entravaient Amiko se défaisaient à une vitesse époustouflante. La fille héritière n'aurait pas pu faire si vite. Pourtant, elle était plus puissante que Moiraine, potentiellement en tout cas. À la tour, ses formatrices avaient toutes été stupéfiées par son don, comme par celui d'Egwen et de Ninévée. Cette dernière était la plus formidable des trois, du moins lorsqu'elle parvenait à canaliser. mais Moiraine avait l'avantage de l'expérience. Ce que les trois jeunes femmes s'acharnaient encore à apprendre, elles pouvaient le faire les yeux fermés. Il y avait cependant quelques petits trucs qu'Elaine et ses amis savaient exécuter alors que l'Aes Sedai en était incapable. Une bien maigre consolation quand on songeait à la manière dont Moiraine en imposait à la terrible Joya. Libre de ses mouvements et l'ouïe recouvrée, Amiko se retourna et s'avisa de la présence de Moiraine. Poussant un petit cri, elle se fendit d'une révérence aussi appuyée que celle d'une novice. Pour éviter d'accrocher le regard de quelqu'un, Joya fixait agressivement la porte. Les bras croisés, les phalanges d'une main blanche à force de serrer sa natte, Nineveh braquait sur Moiraine des yeux presque aussi brûlants de haine que ceux de la sœur noire. Jouant distraitement avec les plis de sa robe, Egwene assassinait Joya du regard. Accablée, Elaine se reprocha pour la énième fois de ne pas être aussi courageuse que son amie, une faiblesse qui lui donnait souvent le sentiment de la trahir. Sur ces entrefaites, le capitaine entra avec sur les talons deux défenseurs en uniforme noir et or. Avienda n'était pas revenu avec les militaires. Pouvait-on vraiment la blâmer d'avoir saisi au vol l'occasion d'échapper à la Aes Sedai? L'officier au plumet tressaillit lorsqu'il vit Joya, même si celle-ci ne parut pas avoir remarqué son arrivée. Décontenancé, l'homme regarda tour à tour les femmes présentes dans la salle. L'humeur semblait à la morosité, au bas mot. Et tout mâle un tant soit peu expérimenté, évitait soigneusement de se mêler des affaires de ce genre de femmes. Serrant très fort leurs longues lances, les soldats semblaient prêts à se battre jusqu'à leur dernière goutte de sang s'il le fallait. Au fond, ils craignaient peut-être bel et bien d'y être contraints.
« Conduisez les prisonnières dans leurs cellules !»
ordonna Moiraine au capitaine.
« Mais avant, répétez-moi vos ordres, sans erreur ni omission. »«
Oui, Aes, madame, »
fit l'officier d'une voix étranglée, comme s'il avait du mal à respirer.
« Oui, oui, bien sûr. »
Après s'être assuré que sa docilité convenait à la Aes Sedai, il continua.
« Les prisonnières ne doivent parler à personne, moi excepté. Elles n'ont pas davantage de droit de converser entre elles. À toute heure du jour et de la nuit, il doit y avoir 20 hommes dans la salle de garde et 2 sentinelles devant chaque cellule. Ce nombre passe à 4 dès qu'on ouvre une des geôles, pour quelque raison que ce soit. Je dois assister à la préparation de leur repas et les leur apporter en personne. Ce sont vos instructions, madame, au mot près. »
Une question semblait brûler les lèvres du capitaine. Dans la pierre, les rumeurs allaient bon train au sujet des deux captives. Par exemple, on se demandait pourquoi il fallait surveiller de si près 2 pauvres femmes. Et on racontait au sujet des Aes Sedai des histoires toutes plus terrifiantes les unes que les autres.
« Très bien, »
dit Moiraine.
« Vous pouvez les emmener. »
Des prisonnières ou des gardes, qui fut le plus soulagé de sortir? Bien malin qui aurait pu le dire. Joya elle-même s'autorisa quelques hâtes, sans doute parce qu'elle en avait assez de se taire devant Moiraine depuis si longtemps. Sous la torture, Elaine aurait juré avoir gardé un masque d'impassibilité depuis son entrée dans la salle. Mais elle déchanta lorsqu'Egwene approcha d'elle et lui passa un bras autour des épaules.
« Que t'arrive-t-il, mon ami? Tu es au bord des larmes. »
De fait, la sollicitude de sa compagne faillit arracher des sanglots à la fille héritière.
« Mais je ne vais pas me ridiculiser. Non, pas question. »
Une femme qui pleure est un seau sans fond. Un autre adage de Ligny que n'avait pour presque toutes les occasions.
« 3 fois !»
lança Nineveh à Moiraine.
« 3 misérables petites fois ! Seulement 3 interrogatoires durant lesquels tu as consenti à nous assister. Pour finir, tu t'éclipses après 5 minutes et tu reviens pour annoncer qu'elle veut partir pour Tarvalon. Si tu ne veux pas nous aider, au moins ne nous mets pas des bâtons dans les roues. Ne te crois pas tout permis parce que tu es sous l'aile de la chair d'Amirlin, Nineveh. Elle t'a chargé de traquer Liandrine, c'est vrai. Mais tu restes une acceptée, encore loin de tout savoir, malgré la lettre de mission dont tu te rengorges. As-tu l'intention d'interroger ces femmes jusqu'à la fin des temps, avant de prendre une décision? Chez les natifs de 2 rivières, éviter de trancher semble être de mise. Une sorte de sport régional.
Les yeux exorbités, Nineveh ouvrit et referma la bouche, comme si elle ne savait pas trop à quelle accusation répondre en premier. Fine tacticienne, Moiraine en profita pour se tourner vers Elaine et Egwene.
« Reprends-toi, fille héritière. Comment espères-tu exécuter les ordres de notre mère, si tu penses que tous les pays ont les mêmes coutumes que le tien? Au fait, pourquoi es-tu si bouleversé? Quelle que soit la réponse, ne laisse pas tes sentiments blesser les autres. « De quoi parlez-vous ? »
demanda Egwene.
« Quelle coutume ? Quel sentiment ? » Père Elaine était dans les appartements de Rand.
Ne put s'empêcher de dire Elaine d'une toute petite voix. Elle jeta un regard plein de culpabilité à Egwene, qui lui parut admirablement impassible, compte tenu de la situation. Moiraine foudroya du regard la fille héritière, puis elle soupira.
« J'aurais aimé t'épargner ça, Egwene. Mais ton ami s'est laissé déborder par son inimitié pour Berelaine. Et encore, le mot est faible. Les coutumes de Mayenne sont différentes des vôtres, jeune femme. Et Gwen, je sais ce que tu ressens pour Rand, mais ça ne te mènera à rien. Désormais, il appartient à la trame et à l'histoire.
Ignorant la Aes Sedai, Egwene sonda le regard d'Elaine, qui ne parvint pas à détourner la tête. Sans crier gare, la jeune femme de Chandemonde se pencha vers son amie et murmura.
« J'aime Rand, mais comme un frère. Et je t'aime comme une sœur. Je te souhaite bien du bonheur avec lui. »
Elaine écarquilla les yeux, puis elle eut un grand sourire.
« Je t'aime aussi, ma sœur. Merci. Merci beaucoup. Elle n'a rien compris du tout. »
Souffla Egwene, un sourire satisfait sur les lèvres.
« Moiraine, avez-vous déjà été amoureuse ?»«
Drôle de question, se dit Elaine. Comment pouvait-on imaginer une Aes Sedai amoureuse ? D'autant plus que Moiraine appartenait à un Aja, le Bleu, dont les sœurs se dévouaient corps et âme à de grandes causes. L'Aes Sedai ne parut pas désorientée. Après avoir longuement regardé les deux amis toujours tendrement enlacés, elle répondit enfin.
« Je parie que je connais mieux le visage de mon futur mari que vous deux, petite. »
Et Gwen ne put étouffer un cri de surprise.
« De qui s'agit-il ? »
demanda Elaine. Moiraine parut regretter d'en avoir trop dit.
« J'ai peut-être voulu dire que nous l'ignorons toutes les trois. Vous emballez pas à cause de quelques mots. »
L'Aes Sedai se tourna vers Nineveh.
« Si je devais choisir un homme, j'insiste sur le « devait ». Ce ne serait pas l'âne. Voilà au moins une chose dont je suis certaine. »
Une attention délicate vis-à-vis de Nineveh, qui ne parut pourtant pas ravie de l'entendre. L'ancienne sage-dame, de toute évidence, avait ce que Lini aurait appelé un carré de terre dur à biner. Non contente d'aimer un champion, elle était confrontée à un homme qui prétendait ne pas lui rendre son amour. En bon crétin de mal, il pérorait sur la guerre contre les ténèbres, un conflit perdu d'avance qu'il ne pouvait pas abandonner, et sur sa volonté de ne pas offrir à Nineveh une tenue de deuil en guise de robe de mariage. Un ramassis d'âneries. Chaque fois qu'elle y pensait, Elaine se demandait comment Nineveh pouvait supporter ça. Car enfin, elle n'était pas réputée pour sa patience.
« Si vous avez fini de bavasser sur les hommes !»
grogna l'ancienne sage-dame, fidèle à sa réputation, justement.
« Nous pourrions en revenir aux choses sérieuses ?»
Serrant très fort sa natte, elle gagna de la puissance et de la force au fil de son discours, rappelant une roue à eau libérée de ses engrenages.
« Si Joya et Amiko partent pour Tarvalon, comment saurons-nous l'accalmant ? Au fond, ça peut être les deux. Ou aucune. Je n'aime pas danser la valse hésitation, quoi que tu insinues, Moiraine. Mais je suis tombé dans trop de pièges pour avoir envie de recommencer. Et je refuse de partir à la poursuite d'une chimère. La chair d'Amerline nous a chargé de traquer Liandrine et ses complices. Si cette mission ne te semble pas assez importante pour nous prêter main forte, essaie au moins de ne pas la saboter. »
Nineveh semblait sur le point d'arracher sa natte afin d'étrangler Moiraine avec. Affichant le genre de calme qui précède les tempêtes, la Aes Sedai paraissait prête à répéter à son allié le sermon qu'elle avait débité à Joya. Elaine décida qu'il était temps pour elle de ne plus jouer les conciliatrices. Ignorant comment elle en était arrivée à assumer ce rôle vis-à-vis des deux femmes, alors qu'elle avait souvent envie de les saisir par le col et de les secouer comme des pruniers, elle se souvenait très bien d'un des principes de sa mère. En colère, on ne prenait jamais de bonnes décisions.
« À la liste de ce que tu veux savoir, »
dit-elle,
« tu peux ajouter le pourquoi de notre convocation chez Rand. Parce que c'est chez lui que Karine nous a conduites. Il va très bien, soit dit en passant, depuis que Moiraine l'a guéri. »
En repensant à l'état de la chambre, Elaine ne put s'empêcher de frissonner. Mais sa diversion avait fait merveille.
« Guéri ?»
s'exclama Nineveh.
« Que lui est-il arrivé ? Il a failli mourir. »
répondit Moiraine, aussi impassible que si elle annonçait qu'elle avait bu une infusion. Pendant le récit très sobre de la Aes Sedai, Elaine sentit Egwene trembler, sans exclure que ses propres membres soient parfaitement immobiles. Des bulles maléfiques dérivant dans la trame. Des reflets qui sortaient de leur miroir. Rand couvert de sang. Presque incidemment, Moiraine mentionna que Matt et Perrine avaient vécu des expériences similaires, mais qu'ils s'en étaient tirés indemnes. Cette femme devait avoir de la glace dans les veines, pas du sang.
Non, elle bouillait de colère en évoquant l'obstination de Rand. Et elle n'était pas gelée du tout en parlant de mariage, malgré ce qu'elle voulait laisser paraître.
Certes, mais à présent, elle aurait pu discuter d'un rouleau de tissu, se demandant si une soie de cette couleur convenait pour une robe.
« Et ces horreurs vont continuer ?»
demanda Egwene quand la Aes Sedai en eut terminé.
« Vous ne pouvez rien faire pour que ça cesse ? Et Rand non plus ?»
Moiraine secoua la tête, faisant osciller la petite pierre bleue qui pendait sur son front.
« Pour ça, il faudrait qu'il ait appris à contrôler son dent. Et encore, je ne suis pas certaine que ça suffirait. Sera-t-il assez fort pour chasser les miasmes qui rôdent autour de lui ? Rien n'est moins sûr, mais il devrait au minimum être capable de mieux se défendre. Tu ne peux pas l'aider ?»
demanda Nineveh à la Aes Sedai.
« N'es-tu pas celle d'entre nous qui sait tout, ou du moins qui le prétend ? N'es-tu pas à même de le former un peu ? Et ne viens surtout pas nous raconter tes histoires d'oiseau qui ne peut pas enseigner le vol à un poisson. Si tu avais prêté l'attention requise à ta formation,
répondit Moiraine,
tu ne proférerais pas des inanités pareilles. Tu veux apprendre à utiliser le pouvoir, mais tu ne te donnes pas la peine de découvrir ce qu'il est. Le Saïdar et le Saïdin sont très différents. Les flux ne se ressemblent pas, et les méthodes de tissage n'ont guère de rapport. L'oiseau de ton exemple aurait de meilleures chances de réussir.
Cette fois, ce fut Egwen qui se chargea de dissiper l'attention.
Sur quel sujet Rand s'est-il montré têtu ?
Demanda-t-elle. Voyant Nineveh ouvrir la bouche, elle enchaîna.
Parfois, il peut être aussi borné qu'un âne.
Moiraine regarda tour à tour ses compagnes. Très souvent, Elaine se demandait jusqu'à quel point elle leur faisait confiance. Ou à quiconque d'autre, d'ailleurs.
« Il devrait se déplacer, »
dit enfin la Sedai.
« Mais il reste ici, et les gens ont de moins en moins peur de lui. Plus il restera à Théar, confit dans sa passivité, et plus les rejetés tiendront son comportement pour un signe de faiblesse. La trame est en constant mouvement, car seuls les morts ne bougent plus. S'il n'agit pas, il mourra. D'un carreau fiché entre les omoplates, ou pour avoir absorbé du poison versé dans sa nourriture. » Ou encore sous les assauts combinés des rejetés déterminés à lui arracher son âme. Agir ou mourir, voilà l'alternative.
Elaine frémit intérieurement à l'évocation des nombreux dangers qui guettaient Rand. Moiraine n'inventait rien, c'était bien ça le pire.
Tu sais ce qu'il devrait faire, pas vrai ?
Lâcha Nineveh.
Tu as un plan. Tu préférerais qu'il reparte seul à l'aventure ? Moi, je refuse de courir ce risque. Cette fois, il risquerait de mourir, ou de subir un pire sort encore avant que je le retrouve.
C'était bien raisonné. Rand ne savait pas vraiment ce qu'il faisait, et Moiraine, Elaine l'aurait juré, ne voulait à aucun prix perdre le peu d'influence qu'elle avait sur lui, ou plutôt qu'il lui concédait.
« Nous dévoilerez-vous ce plan ?»
demanda Egwen. Cette fois, elle n'avait aucune intention d'arrondir les angles.
« Oui, le ferez-vous ?»
renchérit Elaine, surprise par l'agressivité de son ton. Dès que c'était possible, elle s'efforçait d'éviter les confrontations. Comme disait sa mère, il était toujours plus facile de guider les gens que de les pousser dans une direction à coups de trique. Si l'insolence des deux jeunes femmes irrita Moiraine, elle choisit de ne pas le montrer.
« Je le ferai, si vous me jurez de garder tout ça pour vous. Un plan éventé et condamné à l'échec. Mais je vois que vous comprenez. »
Elaine n'aurait pas pu dire le contraire. Le plan était sans doute risqué, et Aes Sedai n'avait aucune garantie qu'il réussirait.
« Samael est en Illyane, »
continua Moiraine.
Et l'antagonisme entre Théar et Illyane est légendaire. Voilà plus de 1000 ans que ces peuples s'entretuent, et l'éventualité de s'égorger réciproquement les excite, comme s'il s'agissait d'un jour de fête. La présence de Samael, si elle vient à être connue, n'altérera pas l'enthousiasme des guerriers, surtout si le dragon réincarné est à leur tête. Ils suivront Rand, et si Samael est vaincu...
« Par la lumière !»
s'écria Nineveh.
« Non contente de vouloir qu'il déclare la guerre à Illyane, tu entends qu'il défie un rejeté ? Je ne m'étonne plus qu'il se montre têtu. Pour un homme, il n'est pas si idiot que ça. À la fin, il devra affronter le ténébreux. Alors, à quoi bon éviter les rejetés aujourd'hui ? Quant à la guerre, on ne l'a pas attendu pour en déclarer, et ces conflits-là sont inutiles.
Toutes les guerres le sont,
commença Elaine. Elle n'alla pas plus loin, comprenant soudain qu'elle n'avait pas raison sur ce sujet. C'était regrettable, certes, et ça l'emplissait de tristesse, mais elle partageait le point de vue de la Sedai. Plus d'une fois, sa mère lui avait tenu un long discours sur la manière dont une nation devait être guidée et gouvernée. Deux choses très différentes en réalité. Dans les deux cas de figure, il pouvait se révéler indispensable de prendre des décisions hautement déplaisantes, mais préférables cependant aux conséquences désastreuses d'un autre choix. Moiraine eut un regard compatissant pour la fille héritière.
« Ce n'est pas toujours agréable, n'est-ce pas ? Ta mère a commencé quand tu étais encore haute comme trois pommes, je suppose. Il fallait bien qu'elle t'apprenne tout ce qu'il faut savoir pour régner. »
Élevée au palais royal du Kaerienne, Moiraine n'avait jamais été destinée à régner. Cela dit, étant liée à la famille régnante, elle avait dû entendre plus d'une fois des discours de ce genre.
« Parfois, l'ignorance semble un havre de paix, je sais bien. Oui, être une fermière qui ne connaît rien du monde au-delà des limites de ses champs. Tu es encore en verve de métaphores pompeuses ?»
lança Nineveh, hautaine.
« Pour moi, la guerre était une lointaine réalité dont j'entendais parler par les colporteurs, sans vraiment comprendre de quoi il s'agissait. Désormais, je le sais, des hommes qui massacrent leurs semblables. Des êtres humains qui se comportent comme des bêtes fauves. Des fermes et des villages brûlés, la famine, la maladie et la mort, pour les innocents comme pour les coupables. En quoi ta guerre serait-elle meilleure, Moiraine ? Qu'est-ce qui la rend plus propre ? Elaine ?
Souffla la Aes Sedai, invitant la fille héritière à répondre à sa place. La jeune femme secoua la tête. Elle refusait d'être celle qui expliquerait ces choses-là. Mais sous le regard noir de Moiraine, songea-t-elle, sa mère elle-même, assis sur le trône du soleil qui plus est, n'aurait sans doute pas pu garder le silence.
« Que Rand s'en mêle ou pas, il y aura la guerre »,
dit-elle à contre-cœur. Et Gwen recula d'un pas, sa stupéfaction équivalente à celle de Nineveh. Mais l'incrédulité des deux femmes s'estompa au fil du discours de leur amie.
« Les rejetés ne resteront pas les bras ballants »,
continua Elaine.
« Samael n'est sûrement pas le seul à avoir pris le pouvoir dans un pays. C'est le seul que nous connaissons, voilà tout. Tôt ou tard, les rejetés attaqueront Rand. Et ils n'hésiteront pas à mobiliser contre lui les troupes qu'il commande. N'oublions pas les nations qui ne sont pas noyautées par nos ennemis. Parmi elles, combien chanteront la gloire du dragon et le suivront dans l'ultime bataille? Et combien, convaincus que la chute de la pierre est un mensonge, l'accuseront d'être un faux dragon et s'opposeront à lui afin d'éviter qu'il les menace un jour? D'une façon ou d'une autre, il y aura la guerre. »
Elaine s'interrompit. Il en avait plus long à dire, mais elle ne voulait pas s'en charger, par respect pour ses amis. Moiraine se montra beaucoup moins délicate.
« Très bon exposé, »
dit-elle.
« Bien qu'incomplet. »
D'un regard à Elaine, elle lui fit comprendre qu'elle savait très bien quelle était la raison de son ambition. Croisant les mains, elle s'adressa à Nineveh et à Egwen.
« Ce qui rend cette guerre meilleure ou plus propre? Absolument rien. Sinon qu'elle lira Théar à Rand, et que les Ilianiens, au bout du compte, se rallieront aussi à lui. Comment pourront-ils faire autrement quand l'étendard du dragon flottera sur leur capitale? La nouvelle de sa victoire, en se répandant, influencera les guerres qui se déroulent au Tarabon et en Arad-Doman. Elles se termineront et seront un nouveau triomphe pour Rand. En un tour de main, il deviendra si puissant en termes logistiques que seule une coalition de toutes les autres nations qui s'étendent entre ici et la flétrissure serait en mesure de le vaincre. Par la même occasion, il montrera aux rejetés qu'il n'est pas une perdrix à souillettes en train de fabriquer son nid sur une branche. Cette découverte les inquiétera. Et il gagnera le temps dont il a besoin pour apprendre à utiliser sa force. En d'autres termes, il doit agir le premier, être le marteau, pas le clou.
Moiraine eut un rictus, comme si sa colère menaçait de refaire surface.
Oui, il doit agir. Et que fait-il? Il lit, pour compliquer encore ses problèmes et les aggraver.
Comme si elle voyait les carnages se dérouler devant ses yeux, Nineveh était blême. Dans les yeux écarquillés des Gwen, on lisait l'acceptation horrifiée d'une incontournable réalité. Elaine en eut des frissons glacés. Une de ses femmes avait vu Rand grandir, et l'autre avait grandi avec lui. Et maintenant, il allait déclencher des guerres. Pas le dragon réincarné, mais lui, Rand Altor, le berger de Chandemonde. Comme pour fuir cette réalité, Egwene se raccrocha à la partie la plus secondaire du discours de Moiraine.
Comment la lecture peut-elle aggraver ses problèmes? Il a décidé de découvrir seul le sens profond des prophéties du dragon.
Moiraine resta impassible. Mais au son de sa voix, Elaine devina qu'elle se sentait presque aussi accablée qu'elle.
Ces textes sont interdits en Théar, certes, mais le grand bibliothécaire en garda 9 traductions différentes dans un coffre. Rand les a réquisitionnées. J'ai évoqué le passage qui semble s'appliquer à la situation, et il me l'a cité dans une antique traduction candorienne. Le pouvoir des ténèbres rendra la chair humaine sensible à la discorde, au mal et à la ruine. Marqué, ensanglanté, celui qui renaîtra maniera son épée dans le rêve et la brume. Brisant la volonté des enfants de la nuit depuis la grande ville reniée et perdue, il guidera les lances de nouveau vers la guerre, puis il les brisera, leur révélant enfin la vérité cachée, dans un antique songe. Pour être franche, ça convient à cette situation, et à une infinité d'autres. Sous le joug de Samael, Ilian est sûrement une ville reniée et perdue. Si Rand guide les guerriers de Théar, les lance, et brise la volonté de Samael, il aura accompli la prédiction. L'antique songe du dragon réincarné, en d'autres termes. Mais il refuse de se rendre à l'évidence. Il consulte même une version rédigée dans l'ancienne langue, comme s'il y comprenait quelque chose. Bref, il court après des ombres, et Samael, ou Ravine, ou Lanfear, le tiendra peut-être à la gorge avant que j'aie pu le convaincre qu'il fait fausse route. Il est désespéré.
Fini Nineveh d'un ton compatissant qui visait Rand, mais sûrement pas la Aes Sedai.
Désespéré, et en train de chercher sa voie. En matière de désespoir, je n'ai rien à lui envier.
Dis-moi, Rain.
J'ai passé ma vie à le chercher, et je ne le laisserai pas échouer si je peux l'en empêcher. Je suis presque assez désespéré pour...
Elle se mordit la lèvre inférieure.
Disons simplement que je suis prête à faire tout ce qu'il faut. Et ça ne suffit pas,
souligna Egwen.
Alors, qu'envisagez-vous de plus? Vous avez d'autres centres d'intérêt.
Tenta d'éluder la Aes Sedai.
La Jeanne Noire. Non!
Cria Elaine avec toute l'autorité, et la fureur à voir ses phalanges blanchir tant elle serrait fort le devant de sa robe, d'une future reine.
Non,
Non et non! Vous gardez beaucoup de secrets, Moiraine. Mais celui-là, il faut le partager avec nous. Qu'avez-vous l'intention de faire, Arand?
En imagination, la fille héritière se vit en train de secouer Moiraine comme un prunier pour lui arracher la vérité.
Lui faire? Rien du tout. Mais puisque tu insistes... Au fond, il n'y a aucune raison que vous ne sachiez pas, toutes les trois. Vous avez vu ce qu'on appelle le grand trésor?
Assez bizarrement, pour un peuple qui se méfiait du pouvoir de l'unique, les gens de Théar conservaient dans la pierre une collection d'artefacts à peine moins fabuleuse que celle de la Tour Blanche. Selon Elaine, c'était parce qu'ils avaient été obligés de garder Kalendor pendant des siècles. Au milieu d'autres merveilles, la fantastique épée avait une petite chance de passer inaperçue, ou au moins presque inaperçue. Mais le grand trésor, tout aussi bizarrement, n'avait jamais été exposé, croupissant au sous-sol dans une succession de salles poussiéreuses et remplies à craquer. Lors de sa première visite, la fille héritière avait constaté que les verrous, toujours fermés, n'étaient plus que des amas de rouille, quand il restait une porte, car beaucoup étaient tombés en poussière.
« Nous avons passé toute une journée dans ces catacombes, »
dit Nineveh,
« pour voir si Liandrine et ses complices avaient pris quelque chose. Je dirais que non, mais tout est recouvert de poussière et de moisissures. Il faudrait 10 bateaux pour transporter tout ça à la tour. Les sœurs pourraient peut-être identifier et classer ces objets. Moi, ça me dépasse. »
La tentation de lancer une pique à Moiraine étant trop forte, elle ajouta.
« Tu saurais déjà tout ça si tu nous avais accordé un peu de temps. »
La Aes Sedai ne réagit pas. Plongée dans ses pensées, elle murmura quelques mots, se parlant tout haut.
« Il y a un terrain gréal très spécial dans cette collection. Un portique distordu en pierre rouge. Si je ne parviens pas à faire bouger Rand, je devrais peut-être franchir ce seuil mystérieux. »
À voir trembler légèrement la pierre bleue sur le front de Moiraine, on devinait qu'elle ne brûlait pas d'envie de vivre cette expérience. Entendant mentionner un terrain gréal, Egwene toucha d'instinct le corsage de sa robe. Dans une petite poche qu'elle avait cousue elle-même, se nichait un anneau de pierre. Un terrain gréal très puissant, bien que petit. Elaine comprise, trois femmes seulement savaient qu'elle le détenait, et Moiraine ne faisait pas partie du lot. Comme les Angréales et les Saangréales, les terrains gréals étaient des vestiges de l'âge des légendes. Moins rares que les autres artefacts, ils utilisaient le pouvoir au lieu de l'amplifier. Chacun était conçu pour remplir une seule et unique fonction, apparemment en tout cas. Mais nul n'aurait su dire si c'était celle qu'ils avaient, pour certains, aujourd'hui. Le bâton des serments, par exemple, servait à lier une Aes Sedai aux trois serments qu'elle prononçait le jour où elle recevait le châle. Et la dernière épreuve d'une novice, avant d'accéder au statut d'accepté, consistait à entrer dans un terrain gréal qui la confrontait à ses terreurs les plus intimes, les faisant paraître réelles. Ou qui la transportait dans un lieu où ses horreurs existaient bel et bien. Avec les terrains gréals, on ne pouvait jamais savoir. En les étudiant et en les utilisant, les sœurs avaient été carbonisées ou tuées, quand elles ne s'étaient pas simplement volatilisées.
« J'ai vu ce portique distordu, »
dit Elaine.
« Dans la dernière salle, tout au fond du couloir. Ma lampe s'est éteinte et je me suis étalée 3 fois avant de retrouver la sortie. »
La jeune femme rosit d'embarras.
« Dans un tel endroit, je n'ai pas voulu canaliser, même pour simplement rallumer ma lampe. À vrai dire, tous ces objets me faisaient penser à des détritus, comme si on avait entassé là tout ce qui se rapportait de près ou de loin au pouvoir. » Mais je craignais quand même d'activer un artefact encore en état de marche et de déclencher une catastrophe. Et en t'étalant, comme tu dis, si tu avais accidentellement franchi ce portique.
Lâcha Moiraine.
Pour l'activer, il suffit de le franchir. Inutile de canaliser. Et à quoi sert-il?
Demanda Nineveh.
À obtenir des réponses. 3, toutes exactes. Sur le passé, le présent et l'avenir.
Elaine pensa aussitôt au conte pour enfants intitulé « Billy sous la colline », mais uniquement à cause des 3 réponses. En revanche, elle eut une autre idée, bien plus pratique, et ne fut apparemment pas la seule, car Nineveh et Egwene ouvrirent la bouche au moment où elle lançait
« Moiraine, c'est la solution de notre problème. Nous pouvons demander si Joya et Amiko ont menti. Où sont Liandrine et les autres, et quelles sœurs noires vont rester à la tour? Ou demander pourquoi cet objet à Tanchiko est si dangereux pour Rand ?»
dit Egwene.
« Pourquoi ne nous as-tu pas parlé plus tôt de ce portique ?»
s'indigna Nineveh.
« Ça nous aurait épargné des heures et des heures à écouter les mêmes histoires. »
La Aes Sedai eut une moue accablée, puis elle écarta les mains.
3 inconscientes qui se jettent tête la première dans un endroit où Lan et 100 autres champions hésiteraient à mettre un pied. Pourquoi n'ai-je pas franchi ce seuil, selon vous? J'aurais pu demander ce que doit faire Rand pour survivre et triompher. Découvrir la méthode infaillible pour vaincre les rejetés et le ténébreux. Et apprendre comment le garçon peut contrôler son don. Et esquiver la folie assez longtemps pour accomplir sa mission.
Moiraine se tut, les poings plaqués sur les hanches, attendant des réactions qui ne vinrent jamais.
Il y a des règles.
Reprit-elle.
Et des risques. On ne peut franchir ce portique qu'une fois. Une personne doit poser les 3 questions et entendre les réponses avant de pouvoir sortir sans espoir de retour. Apparemment, les questions frivoles sont durement punies.
mais ce qui peut sembler sérieux venant d'une personne risque de paraître dérisoire venant d'une autre. Enfin, et c'est le plus important, les questions concernant les ténèbres ont de dures conséquences. Évoquer l'âge noir risque de valoir la mort à une sœur, ou la folie si elle ressort indemne du portique. Quant à Rand, j'ignore s'il est possible de poser une question au sujet du dragon réincarné, sans s'aventurer sur le terrain redoutable des ténèbres. Vous comprenez? Parfois, il y a d'excellentes raisons de se montrer prudente. Comment sais-tu tout ça?
Demanda Nineveh. Imitant la posture de Moiraine, elle la défia du regard.
Les hauts seigneurs n'ont sûrement jamais permis aux Aes Sedai d'étudier le grand trésor. À voir la poussière, personne n'est entré dans ces salles depuis une bonne centaine d'années. Plus que ça, je dirais.
Répondit très calmement Moiraine.
La collection a été complétée il y a près de 3 siècles. Peu avant d'arrêter, les hauts seigneurs ont acquis le Terangréal dont je parle. Jusque-là, il était la propriété des premières dames et des premiers maîtres de Mayenne, qui l'utilisaient pour conserver leur cité-état hors des griffes de Théar. Et ses dirigeants ont autorisé la Tour Blanche à étudier le portique. En secret, bien entendu, histoire de ne pas courroucer Théar. Si ce Terangréal était si utile à Mayenne,
dit Nineveh, toujours prompte à lever les lièvres,
pourquoi a-t-il fini dans les sous-sols de la pierre? Parce que les premières dames et les premiers maîtres, au fil de l'histoire, ont parfois pris de mauvaises décisions quand ils tentaient d'assurer l'indépendance de Mayenne. Il y a 300 ans, les hauts seigneurs envisageaient de fabriquer une flotte pour suivre les bateaux de Mayenne et découvrir les bancs de poissons gras dont on tire de l'huile et de la farine. Le premier maître de l'époque, Alvar, augmenta alors le prix de l'huile pour lampe de Mayenne, histoire qu'elle ne fasse plus concurrence à l'huile d'olive de Théar. Pour convaincre les hauts seigneurs que Mayenne ne mettrait jamais en danger leurs intérêts, il leur offrit en sus le Terangréal. Comme il l'avait déjà utilisé, l'artefact ne lui était plus d'aucun usage. Presque aussi jeune que Berelaine aujourd'hui, il pensait avoir devant lui un très long règne et bénéficier pendant longtemps de la reconnaissance de Théar.
« Un crétin !»
souffla Elaine.
« Ma mère ne ferait sûrement pas une erreur pareille. »«
Sans doute, »
concéda Moiraine.
« Mais Andorre n'est pas une minuscule nation sous la menace d'un pays plus grand et plus fort. Cela dit, Alvar était bel et bien un crétin, puisque les hauts seigneurs le firent assassiner moins d'un an après ces événements. Mais je dispose grâce à lui d'une précieuse possibilité. Dangereuse, certes, mais ça vaut toujours mieux que rien. »
Nineveh marmonna entre ses dents, peut-être déçue que l'Aes Sedai ne se soit pas emmêlé les pieds dans ses explications.
« Eh bien, ça nous ramène à notre point de départ, »
soupira Egwen.
« Pas moyen de savoir laquelle des prisonnières ment. Et si elle ne nous raconte pas toutes les deux des histoires ?»«
Si ça vous chante, continuez à les interroger. »
Dis-moi, Reine.
Jusqu'à ce qu'elles embarquent sur ce bateau, elles sont à vous. Cela dit, je doute qu'elles changent de version désormais. Mais je vous conseille de vous concentrer sur Tanchiko. Si c'est Joya qui dit la vérité, il faudra une légion d'Aes Sedai et de champions pour surveiller Mazrim Taïm. 3 jeunes femmes ne seront pas à la hauteur. Quand j'ai su pour l'histoire de Joya, j'ai envoyé un pigeon voyageur à la chair d'Amerlin. 3 pigeons même, pour être sûr que l'un d'entre eux atteindrait la tour. C'est gentil de nous tenir informés.
Marmonna Elaine. Moiraine menait sa course en solitaire. Certes, elles n'étaient pas de vraies Aes Sedai, mais ce n'était pas une raison pour les traiter ainsi. Après tout, la chair d'Amerlin en personne les avait choisies pour cette mission. Moiraine hocha la tête, faisant mine de prendre pour argent comptant les remerciements de la fille héritière.
« Tout le plaisir est pour moi. Souvenez-vous que vous êtes les chiens de chasse que la chair d'Amerlin a lancés aux trousses de la Janoire. »
Un sourire en coin indiqua que Moiraine avait parfaitement lu dans les pensées d'Elaine.
« Il vous appartient de décider de vos actes. D'ailleurs, vous n'avez pas manqué de me le rappeler. Décider sera plus facile pour vous que pour moi, j'en suis sûr. Et je parie que vous dormirez bien durant les quelques heures qui nous séparent encore de l'aube. Je vous souhaite une très bonne nuit.
« Cette femme !»
souffla Elaine quand la porte se fut refermée sur la Aes Sedai.
« Parfois, je pourrais l'étrangler de mes mains. »
Elle se laissa tomber dans un des fauteuils et baissa les yeux sur ses mains, justement. Après un grognement qui pouvait passer pour une approbation, Nineveh se dirigea vers une desserte sur laquelle trônaient des gobelets d'argent, des fioles d'épices et 2 carafes. Celle qui contenait du vin était placée dans un seau rempli de glace maintenant fondue. La précieuse glace, directement importée de la colonne vertébrale du monde, avait voyagé dans des coffres remplis de sciure. Tout ça pour qu'un haut seigneur puisse boire frais en plein été. Elaine n'en croyait pas ses yeux tant c'était énorme.
« Une boisson fraîche avant le coucher ne nous fera pas de mal »,
annonça Nineveh en se servant un mélange de vin et d'eau qu'elle saupoudra d'épices. Elaine releva les yeux quand Egwene va s'asseoir à côté d'elle.
« Tu étais sincère au sujet de Rand ?»
demanda la fille héritière à son amie. Egwene acquiesça.
« Tu te souviens de ce que Mine aimait répéter ? Ses plaisanteries sur un partage ? Parfois, je me demande si ça venait d'une vision dont elle aurait omis de nous parler. Elle voulait dire que nous l'aimons toutes les deux, en tout cas, et qu'elle le sait. Mais c'est toi qui as un droit sur lui. Et à l'époque, je ne savais pas que faire. Eh bien, j'en suis toujours là. Egwene, Rand t'aime. Dans ce cas, il va falloir clarifier les choses. Quand je me marierai, ce sera par choix, pas parce qu'un homme supposera que je l'aime. Je ne le brusquerai pas, Elaine. Mais quand je lui aurai parlé, il saura qu'il est libre, tu peux me croire. Et que ça lui plaise ou non. Selon ma mère, les hommes sont différents de nous. Nous désirons être amoureuses, mais seulement de celui dont nous rêvons. Un homme a aussi besoin d'aimer, mais il peut s'enflammer pour la première femme qui attachera une corde à son cœur. C'est bien gentil tout ça, mais Barry Lane était dans ses appartements.
Et Gwen haussa les épaules.
Quelles que soient ses intentions, Barry Lane ne se concentrera jamais assez sur un homme pour qu'il tombe amoureux d'elle. Il y a 2 jours de ça, elle jetait encore son révolu sur Rouark. Après-demain, elle aura choisi une autre cible. Elle est comme Else Greenwell. Tu te souviens d'elle? La novice qui passait le plus clair de son temps dans la cour d'entraînement pour faire les yeux doux aux champions. Barry Lane ne faisait pas les yeux doux à Rand. Très tard dans la nuit, elle était chez lui et encore plus légèrement vêtue que d'habitude, si c'est possible.
Tu veux lui laisser Rand?
Non!
S'écria Elaine avec une conviction sincère. Hélas, son désespoir la rattrapa très vite.
Elaine, je ne sais pas quoi faire. Je l'aime et je veux me marier avec lui. Mais que dira ma mère?
Je préférerais passer une nuit dans la cellule de Joya plutôt que d'entendre les sermons qu'elle va me débiter.
Même dans la famille royale, il n'était pas rare en Andorre que les nobles épousent des roturiers. Mais Rand n'était pas précisément ce qu'on pouvait appeler un roturier classique. Une fois informé, Morgaz était bien capable d'envoyer Lini à Théar pour qu'elle ramène la fille héritière au bercail en la tirant par l'oreille.
Ta mère serait malvenue de te faire la morale, s'il faut en croire Matt. Et même en tenant compte des exagérations de notre ami, ce seigneur Gaebril dont Morgaz s'est amouraché ne semble pas le genre d'homme que choisit une femme quand elle a encore la tête sur les épaules. Matt fait beaucoup plus qu'exagérer, j'en suis sûr.
Elaine aurait juré que Morgaz était bien trop sensé pour tomber sous le charme d'un homme. Si le seigneur Gaebril, dont elle n'avait jamais entendu le nom jusqu'à ce que Matt le prononce, entendait se servir de sa mère pour augmenter son pouvoir, son réveil serait rude, ça ne faisait aucun doute. Nynevée rejoignit ses amis avec 3 gobelets de vin, luisant de condensation. Afin de ne pas tâcher le bois poli, elle les posa sur un dessus de table vert et or en paille tissée.
« Si je comprends bien, »
dit-elle.
Elaine s'est découvert un amour fou pour Rand. Et Gwen, en revanche, s'est aperçue qu'elle n'éprouvait rien de tel pour lui.
Les 2 jeunes femmes ne cachèrent pas leur stupéfaction.
« Je ne suis pas aveugle, »
fit l'ancienne sage-dame.
« Ni sourde, surtout quand vous ne prenez pas la peine de tenir des messes basses. »
Elle but une gorgée de vin et continua d'un ton moins amical.
« Que comptez-vous faire? Si cette garce de père Elaine a des vues sur lui, il ne sera pas facile de lui faire lâcher prise. Elaine, tu es sûre de vouloir livrer cette bataille? Tu sais qui est Rand et ce qui l'attend, même si on oublie les prophéties. La folie, la mort. Combien de temps lui reste-t-il? 1 an ou 2? Ou le déclin commencera-t-il avant la fin de l'été? C'est un homme capable de canaliser le pouvoir. Tu te souviens de ce qu'on nous a enseigné? Perds-tu de vue ce qu'il est?
Elaine soutint sans broncher le regard de Nynevée.
Ça n'a aucune importance. C'est peut-être une erreur, mais je m'en fiche. Je ne changerai pas mes sentiments parce qu'on me leur donne.
Nynevée eut un grand sourire.
Il fallait que je m'en assure,
dit-elle avec une chaleur sincère.
Et que tu l'affirmes haut et fort par la même occasion. Aimer un homme n'est jamais facile. Mais avec celui-là, ce sera pire encore.
Le sourire s'effaça.
Mais j'attends toujours la réponse à ma première question. Que comptes-tu faire? Barry Lane a l'air tendre et douce, du moins aux yeux des hommes, mais ce n'est qu'une façade. Elle se battra comme une tigresse. Et elle est du genre à s'accrocher à quelque chose qui ne l'intéresse pas vraiment, si elle se découvre de la concurrence. J'aimerais l'enfermer dans un tonneau,
fit Egwene en serrant son gobelet, comme si c'était le coup de la première dame.
Et la renvoyer à Mayenne en la forçant à voyager à fond de cale.
Nynevée secoua la tête, faisant comme d'habitude osciller sa natte.
C'est amusant, mais essaie de faire des propositions constructives. Et si tu n'en as pas, tais-toi et laisse Elaine décider ce qu'elle va faire.
Voyant la surprise d'Egwene, l'ancienne sage-dame précisa.
Rand est son affaire, plus la tienne. N'oublie pas que tu t'es retiré du jeu.
Cette remarque aurait dû remonter le moral d'Elaine, mais il n'en fut rien.
Ça n'aurait pas dû être comme ça,
soupira-t-elle.
J'imaginais rencontrer un homme, apprendre à le connaître durant des mois, voire des années, puis me rendre compte que je l'aimais. Voilà ce que je pensais vivre. Mais je connais à peine Rand. Et en 1 an, j'ai dû lui parler 6 ou 7 fois. Mais j'ai su que je l'aimais 5 minutes après notre rencontre.
Et ça, c'était particulièrement fou. Mais folie ou pas, ça restait la pure vérité. Et Elaine était prête à la crier devant sa mère et Lini. Lini? Non, peut-être pas. La nourrice avait une façon radicale de traiter les idioties. Et elle se comportait comme si la fille héritière avait toujours 10 ans.
Dans l'état actuel des choses, je n'ai aucun droit d'être en colère contre Rand, ni d'en vouloir à Berylaine.
Pourtant, elle ne se gênait pas.
J'aimerais le gifler jusqu'à ce qu'il entende sonner les cloches, et pendant 1 an. Quant à elle, je voudrais lui flanquer des coups de badine sur tout le chemin vers le bateau qui la ramènera à Mayenne.
Cela dit, Elaine n'avait effectivement aucun droit d'agir ainsi, et ça aggravait encore sa détresse.
« Que puis-je faire ?»
gémit-elle soudain.
« Rand me regarde à peine quand on se croise. À deux rivières ?»
dit Egwene.
« Quand une femme veut montrer son intérêt à un homme, elle lui met des fleurs dans les cheveux pour Beltine ou la fête du soleil. Sinon, à n'importe quel moment de l'année, elle peut lui coudre une belle chemise de fête brodée. Ou ne jamais demander à un autre homme de la faire danser. »
Devant le regard ébahi de son ami, Egwene continua.
« Je ne te suggère pas de te transformer en couturière, mais il y a des moyens de lui montrer tes sentiments. À Mayenne, on dirait que les femmes optent pour une approche plus directe. »
fit Elaine d'un ton à rien trop sec.
« C'est peut-être la solution. Lui dire, tout simplement. Au moins, il saura où il en est. Et j'aurai un certain droit de... »
La fille héritière prit son gobelet et sirota un peu de vin. La manière directe, comme une de ces dévergondées de Mayenne. Reposant le gobelet sur le dessus de table, Elaine prit une grande inspiration et murmura.
« Que dirait ma mère ?»« Il y a plus important, »
rappela Ninévé.
« Que feras-tu quand nous devrons partir ? Que ce soit pour Tanchico, la Tour Blanche ou ailleurs, nous devrons quitter Théard. Veux-tu lui dire que tu l'aimes et l'abandonner juste après ? Imagine qu'il te demande de rester avec lui, et que tu en aies envie. Je partirai quand même !»
répondit Elaine sans hésitation, mais avec quelque rudesse. Car Ninévé n'aurait pas dû poser cette question.
Si je dois accepter qu'il est le dragon réincarné, il doit en retour respecter mes engagements et le devoir que j'ai à accomplir. Je veux devenir une Aes Sedai, Ninévé. Ce n'est pas une lubie, et je prends au sérieux notre mission. Crois-tu sincèrement que je vous abandonnerai, Egwene et toi ?
Egwene assura que cette idée ne lui avait jamais traversé l'esprit. Ninévé fit de même, mais avec beaucoup moins de conviction. Elaine regarda tour à tour ses deux compagnes.
En fait, j'avais peur que vous m'accusiez de perdre mon temps avec des futilités, alors que nous devons nous occuper de la Janoire.
Une ombre dans le regard d'Egwene indiqua que cette idée-là, en revanche, lui avait bel et bien traversé l'esprit.
Rand n'est pas le seul qui risque de mourir dans 1 an. Ou dans 1 mois.
Dit Ninévé.
Ça peut nous arriver à toutes. Les temps ont changé et nous devons nous adapter. Si tu te contentes de rêver à ce que tu désires, tu risques d'avoir quitté ce monde avant de l'obtenir.
Une manière peu rassurante de réconforter quelqu'un. Elaine acquiesça pourtant. Elle n'était pas idiote. Voilà ce que ça voulait dire. Si seulement il avait été possible de régler aussi aisément la question de la Janoire. La jeune femme pressa le gobelet vide contre son front, histoire de le rafraîchir. Quelle décision prendre au sujet de Tanchico ?